continue à faire mes voyages et à aller traquer partout où je le peux les raisons de m'émerveiller du monde et de m'enchanter de ce que je vois, ou au contraire de m'en désespérer parce qu'il m'arrive de pleurer sur les cartes que d'autres ont distribuées, parce que j'aime l'idée que tout ce que je vis, je le transformerai un jour en mots, en lignes, en écriture. C'est ça finalement l'objectif, le moteur, la motivation de ces voyages qui peuvent sembler un peu frénétiques. Les hommes sont fous, les cultures sont bizarres, les paysages sont superbes, les animaux, enfin le peu qu'il en reste, nous offrent leur panoplie de symboles, et c'est tout ça, moi, que j'essaye de rassembler dans ces pages.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Nous avons rendez-vous cet après-midi avec un homme qui n'est pas souvent chez lui, ici, dans le 5e arrondissement de Paris, non. Vous avez plus de chances de le croiser à l'autre bout du monde, en marche, un chapeau à plumes sur la tête, un bâton dans la main, un cahier dans la poche, lui le voyageur, le vagabond, le barde, comme il se définit. Alors je vais monter 5 étages avec vous pour rejoindre Sylvain Tesson, cet homme qui a chuté d'un toit en 2014, mais qui malgré ses graves blessures est parvenu à se relever, à marcher, à grimper encore, cet auteur de récits comme « Dans les forêts de Sibérie » ou « Dans les chemins noirs », cet auteur de nouvelles, d'aphorismes, cet érudit profondément vivant qui apprend autant en lisant Homère qu'en allant observer lui-même l'immensité du monde. Bienvenue dans le Grand Atelier de Sylvain Tesson.
Alors, écoutez, où voulez-vous ? On va peut-être pas se mettre dehors.
Non, mais on est bien là, parce que...
Asseyez-vous une seconde.
Moi, je suis assez curieux, alors j'aime bien bouger dans un appartement.
Ah, oui.
Puis regarder un peu.
J'aime bien bouger, moi aussi.
Ben oui. Il n'y a pas plus en mouvement que Sylvain Tesson comme écrivain.
C'est d'ailleurs devenu une sorte de métier, je ne sais pas, mais c'est ma nature. Le mouvement est ma nature.
Enfant déjà.
Enfant toujours.
Oui, c'est vrai, vous avez ce sentiment-là ?
Oui, oui, oui. J'ai le sentiment que, je ne sais pas pourquoi, mais... Le processus physiologique, non pas de vieillissement, mais de maturation m'a épargné. Enfin, en gros, je suis attardé. Enfin, ou inachevé, peut-être.
Mais c'est un sentiment agréable, ça.
Ça permet de ne jamais s'ennuyer. Je crois que c'est une des grandes menaces de la vie, qui peut s'appeler autrement. Ça peut s'appeler le racornissement, ça peut s'appeler la fossilisation, la pétrification... Eh bien, je crois que garder son esprit d'enfance, c'est peut-être ça. C'est continuer à nourrir un émerveillement, je ne sais pas, mais un appétit. Un appétit permanent, mais qui change d'objet. Quand on est enfant, c'est pour les fraises Tagada. Et quand on grandit un peu, c'est pour les horizons.
En même temps, là, vous m'avez montré un livre que vous avez trouvé sur les quais, là, à Paris, qui est un livre qu'un enfant aurait pu acheter.
Oui, c'est la collection de Fernand Nathan, des récits de la mythologie. On trouve les récits de la mythologie sibérienne, hindoue. Là, j'ai trouvé les récits tirés de l'histoire grecque.
Vous lisiez ça, enfant ?
Oui, je me souviens très bien qu'on lisait ça, enfant, et c'était un émerveillement. Alors, pas tout, parce que je crois que, d'ailleurs, l'Antiquité, la clé d'accès à l'Antiquité quand on est enfant, c'est évidemment le professeur. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'avaient donné le goût des affaires ulyssiennes. Mais après, je devais être assez cancre, assez paresseux. Vous savez, on a tous un mauvais penchant en nous, qui est le penchant à la facilité. C'est le Pinocchio qui dort en nous. Alors quand on est Pinocchio, on est un pantin faible, désarticulé, qui va vers la fête foraine et qui répond davantage à l'appel des flonflons qu'au sérieux. Alors après, moi, j'ai fermé des livres et ce qui m'a attiré vers la découverte du monde, c'est la nature. C'est cette espèce de décor pour l'aventure qui est déjà dressé avant que l'homme arrive. Nous avons beaucoup de chance tout de même d'être arrivés très tard sur cette planète, nous autres les hommes, quand tout était disposé et que l'aventure était non pas au coin de la rue, mais au seuil de la grotte.
adolescent, avec un copain, vous faites le tour du monde à vélo. Est-ce qu'on peut dire que votre vie change? Quelque chose est déclenché à partir de cette découverte du monde-là?
Quand nous sommes partis, nous pensions faire quelque chose d'extraordinaire, de prise de risque. Et puis nous nous sommes aperçus que faire un tour du monde à bicyclette, ben en fait, c'est de faire une promenade à vélo, mais tous les jours, qui va durer un an et qui, en vertu de la rotondité de la Terre, si vous allez tout droit, va finir par vous ramener chez vous. Et du coup, nous avons découvert l'aspect extrêmement ordinaire, presque banal, de ce qui pourrait apparaître comme des aventures incongrues. Et ensuite, moi, j'ai passé ma vie, finalement, à faire des voyages qui me semblent appartenir à une forme de sagesse, d'ordinaire, alors que parfois j'entends dire que on trouve que ce que je fais est parfois un peu déplacé. Mais moi je ne trouve pas que le déplacement soit déplacé.
Qu'est-ce qu'on vous a reproché par exemple?
De prendre des risques inconsidérés, de ne pas toujours mettre de cordes, quand je faisais de l'escalade, parfois de me laisser aller à quelques excès, parce que moi j'aime beaucoup les choses, j'aime beaucoup les choses organiques.
Les excès, c'est la vodka?
Par exemple, la vodka et puis tous ses petits frères. J'ai pas tellement le sens des proportions, moi. Ni quand je bois, ni quand je parle, ni quand j'étreins. Et du coup, parfois, on finit par payer son manque de sens des proportions. Ça m'est arrivé.
Mais vous êtes toujours relevé?
Oui, je me suis toujours relevé. Si vous faites référence aux petits accidents qui me sont arrivés, je me suis relevé parce que j'ai eu ces accidents au début du 21e siècle. Il n'y a pas très longtemps, à une époque où la médecine vous permet de vous relever. Médecine occidentale, j'ai beaucoup de chance. Et je serais tombé du toit d'une yourte au XIIe siècle sous Gengis Khan. Il est probable que je n'aurais pas passé la première heure.
Je vais un peu fermer la porte pour les bruits de, éviter les bruits de travaux en face. C'est très impressionnant d'être chez vous. On est tout en haut comme dans une cabane.
Oui.
Et une vue exceptionnelle sur Paris.
Oui, une vue sur l'église Saint-Séverin du 5e arrondissement.
Des églises comme celle-là, vous en avez escaladé beaucoup?
Oui, mais il y a prescription.
C'est fini?
Oui, c'est fini. D'abord, je le faisais dans un cadre tout à fait respectueux du patrimoine. C'était une manière de pratiquer. Il y en a qui vont bien à l'église tous les dimanches. Moi, j'y allais très souvent, la nuit. Mais maintenant, tout ça est fini. Comprenez, l'alcool est bizarre. L'alcool, c'est un agent de déclenchement physiologique. Alors, chez certains êtres, ça crée des comportements, comment dit-on aujourd'hui dans le langage de la soumission managériale, des comportements inappropriés. Alors, il y en a qui montent sur les tables, il y en a qui enlèvent leurs culottes, il y en a qui se mettent à prononcer des discours, il y en a qui chantent des chansons, certains finissent sous la table. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je voulais grimper le gothique. Je ne sais pas, c'est très étonnant, c'est mystérieux l'alcool.
On croirait du Audiard, je voulais grimper le gothique.
Non mais il y a ce mystère de l'alcool, c'est que ça pousse certains êtres dans des retranchements insoupçonnés.
Alors, vous ne buvez plus là maintenant?
Non.
Vous pouvez encore? Non,
non, je ne bois plus depuis août 2015. Plus une goutte, je ne regarde même pas en face un baba au rhum.
Dans les forêts de Sibérie. À 4 heures, je pars pêcher au trou de pêche numéro 2, à 1 heure de marche au nord. La rive défile, sévère. Il y a une joie dans ces bois, mais pas une once d'humour. Voilà peut-être ce qui rend le visage des ermites si grave. Je prends 3 ongles de 20 cm. Ils finissent sur la poêle fourrée aux érelles avec un filet d'huile. La chair est savoureuse. Fraîche, elle se marie bien avec la vodka. Tout se marie bien avec la vodka. Sauf les baisers d'une fille. Je ne risque rien.
Il y a des bouquins partout chez vous, Sylvain Tesson. Il y a toute une étagère Ernst Jünger.
Oui.
Que vous citez assez souvent.
Oui. Voilà un être qui, notamment dans le journal de la fin de sa vie, 70 s'efface, entre les années 80 et les années 2000, dans son jardin, est arrivé à des considérations sur l'univers, mais en passant par l'insecte. Ça, c'est le point d'aboutissement de la science du regard, c'est-à-dire réussir à regarder davantage que ce que l'œil voit, et voir dans le scarabée une réduction de l'équation des grands phénomènes universels. C'est la phrase de Victor Hugo, qui peut prétendre que le parfum des aubépines est indifférent aux constellations?
Il doit être chez vous d'ailleurs, Hugo.
Oui, il est là-bas. Je dois y avoir les contemplations là-bas.
Lui aussi, vous le citez.
Mon livre chéri, c'est les contemplations. Alors, je ne sais pas. Peut-être est-il là. Mais vous savez, moi, j'ai été victime de... Enfin, je sais pas comment vous organisez vos pans de bibliothèque, mais moi, je suis victime de la double rangée. Et la double rangée, c'est un drame dans la vie d'un homme. Après, c'est la prostate, et puis après, c'est la mort, quoi. Mais le premier drame, c'est la double rangée. Quand vous êtes obligé de masquer une rangée de livres par une autre rangée et que vous dites adieu.
C'est le même souci.
Voilà.
Et on ne va jamais les regarder.
Et on ne va jamais les regarder, on les perd.
C'est une petite mort, oui.
C'est une petite mort, et puis ensuite, cataracte, et puis après, c'est la fin.
Vous rangez par ordre alphabétique ou pas, non hein?
Non, je ne crois pas à l'ordre alphabétique. Je crois que l'ordre alphabétique tient quelques heures, quelques jours. Puis après, Jules Vallès se retrouve avec Aragon. C'est fini.
Vous y vivez beaucoup ici?
Oui. En tout cas, c'est l'endroit où je reste. C'est l'endroit où je reste immobile de plus longtemps.
Combien de temps maximum?
Peut-être, il m'arrive parfois de ne pas bouger de Paris pendant un mois. Ce qui est beaucoup, ce qui donne le temps d'écrire un petit texte ou de commencer le début de quelque chose. Et puis après, je repars en voyage. Je suis souvent ici pour faire des sacs. Si jamais un jour j'écrivais ce que je me garderais bien de faire, parce que c'est toute autobiographie est une nécrologie, mais si je devais en écrire une, je l'appellerais « Ma vie dans un sac » ou « Dans les sacs ». Parce que j'ai passé ma vie à défaire des sacs, à refaire des sacs, ça, je sais faire ça.
On ne peut pas dire qu'ici... Si je devais vous cambrioler, j'aurais pas l'impression d'être dans l'appartement d'un grand voyageur.
Non, parce qu'il y a des placards et qu'il y a une science de la dissimulation dans ma vie comme dans mon appartement.
Pourquoi ?
Parce que je crois beaucoup, moi, au caractère étanche et compartimenté des existences. Par exemple, j'ai une vie, moi, dans l'ordre de la montagne, de l'alpinisme, avec, dans l'ordre de l'action, pourrait-on dire, avec des... Beaucoup d'amis que je connais très bien, avec qui je ne parle que de ça, avec qui je partage cette passion, mais qui est plus qu'une passion, qui est un mode de vie. Et puis j'ai une vie dans un autre ordre, je ne sais pas moi, par exemple l'ordre de la littérature, je pourrais dire, avec des êtres qui sont complètement indifférents à ces histoires de la montagne, qui n'en parlent pas, qui ne savent même pas ce que je fais, et je ne raconte pas ce que je fais parfois et qui est constitutif de ma vie à d'autres gens qui, eux, s'occupent d'une sphère qui elle-même est constitutive de ma vie, mais les deux sont incommunicables. Alors c'est très étonnant parce que je multiplie ça. Et donc le placard m'intéresse beaucoup parce que le placard c'est là où on dissimule sa vie.
Donc là je peux pas vous demander d'en ouvrir un.
Non, il faut pas ouvrir les placards, c'est le début des ennuis. Pour celui qui les ouvre et des déceptions pour celui qui a demandé à les ouvrir.
Pas de sac en train d'être défait ou en train d'être fait.
Ça, c'est le sac avec lequel je suis revenu hier de mes escalades dans les Calanques. Il n'est même pas défait encore. Il est plein de matériel d'escalade. Il y a une autre corde de 50 mètres et des mousquetons, des pitons, du matériel.
Alors, je suis sûr qu'il y a des livres de poésie aussi.
Alors, il y a d'abord un livre d'escalade et puis il y a tout ce matériel.
Des cahouets.
Voilà. Alors ça... C'est pas du tout des clochettes, des burettes d'enfants de cœur, comme au moment de l'élévation, mais c'est le bruit que font le métal des mousquetons et des pitons qu'on accroche dans la paroi. Donc, voilà, enfin bref, il y a tout ça. L'escalade, c'est quelque chose qui, comme l'écriture, vous ramène à ce que vous faites. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime avec passion cette activité, c'est qu'elle fait partie de ces... les efforts que nous faisons dans la vie pour être à soi-même et être à ce qu'on l'on fait. Quand on escalade, si on n'est pas ce qu'on fait, ben on tombe. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire pour une question vitale.
Donc vous réussissez à escalader toujours ?
Ah oui, je grimpe toujours, mais plus de manière gonzo. Je ne fais plus d'escalade inconsidérée en prenant des risques... quand je suis emboissonné, je fais de l'escalade classique, quoi. Je grimpe sur des falaises, des parois, avec des cordes, des pitons, enfin, en faisant ce qu'il faut pour que ce soit un sport et non plus un chatouillement du sort.
Vous êtes devenu grand ?
Bah, en tout cas, je suis devenu fatigué parce que je me suis quand même abîmé et du coup, je suis devenu peut-être plus prudent.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Der Wanderer, le voyageur, la version instrumentale de ce Lied de Schubert par François Salk au violoncelle et Claire-Marie Leguet au piano. Der Wanderer, le marcheur. Pour continuer la conversation avec vous, Sylvain Tesson, en studio, cette fois on a quitté votre appartement de la rue Saint-Séverin. Le Lied de Schubert, inspiré d'un poème allemand, commence par décrire des montagnes, une vallée dans la brume, la mer rugissante. Et je me suis dit que commencer par l'évocation d'un décor ne pouvait que vous plaire, parce que le décor, quand on est un ancien étudiant en géographie, c'est important, c'est même primordial.
Oui, c'est d'ailleurs probablement quelque chose qui est proche de la pensée du professeur Pascal Pic, sous le contrôle duquel je parle. Tout commence par le décor. Non pas tellement que j'appartienne à l'école déterministe de la géographie qui considérerait, si tant est qu'elle existât encore, que les hommes sont ce qu'ils sont parce qu'ils subissent l'influence de leur climat et de leur substrat et de leur et de la géomorphologie dans laquelle ils évoluent, mais il y a tout de même une imprégnation de ce que vous appelez décor, de ce qu'on pourrait appeler le paysage, sur nos personnalités. Vous vous souvenez du mot tellement beau de Laurence Durel qui disait que nous sommes les enfants de notre paysage. Je crois beaucoup à ça.
Vous avez cité Pascal Pic, le paléo-anthropologue. Bonjour Monsieur Pic, il est là avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
En face de vous, Jules Maton, à la crinière rousse. Bonjour Jules. Bonjour. Jeune compositeur, on dit toujours ça quand on parle de vous, parce que vous avez 30 ans.
Jusqu'à 45 ans, je pense.
On peut dire jeune jusqu'à 45 ans, vous avez écrit un opéra.
Seulement pour les compositeurs.
Seulement pour les compositeurs, je retiendrai. Vous avez composé l'Odyssée, on aura l'occasion d'en parler avec vous. Pascal Pic, il y a un an ou deux, vous avez écrit chez Autrement, La Marche. Sauver le nomade qui est en nous. Vous avez un marcheur, pas des moindres, en face de vous. C'est un sujet d'observation pour vous, Sylvain Tesson?
C'est un sujet d'observation et surtout une continuité de ce qu'a fait la lignée humaine tout de même. Nous savons aujourd'hui, et c'est un des grands enjeux de notre modernité, en fait, on dit maintenant post-modernité, pardonnez-moi, c'est que je suis extrêmement inquiet du fait que nous ne marchons plus du tout.
Ah oui.
On marche plus dans les villes, les enfants ne courent plus, même les chiens ne peuvent plus courir. Donc c'est dramatique parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés dans cette affaire. Et les indices que nous avons aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité sont extrêmement inquiétants, puisque en même pas un siècle, nous avons réduit de manière dramatique nos déplacements de bipèdes, et ce sont des enjeux aujourd'hui de santé, de connaissance, de culture et de cognition. Donc tout ça aujourd'hui, il est très urgent de le reprendre, et puis en définitive, quand on marche, d'un seul coup, votre imaginaire précède vos pas et ensuite se construit une autre vision des choses, et je dirais pas les réalités, parce qu'il y a toujours de cela qui intervient. Et retrouver la marche me semble effectivement la chose la plus urgente pour l'avenir de l'humanité d'aujourd'hui.
Vous l'avez trouvé assez jeune, hein, Sylvain Tesson, la marche, quelle vertu elle a sur vous?
Probablement des vertus liées à l'exercice de l'appareil d'observation dont nous sommes physiologiquement dotés, puisque le défilement du paysage au rythme du marcheur permet évidemment la considération de ce qui est en train de passer devant vous, c'est-à-dire le paysage et les hommes à une vitesse assez réduite. Et du coup, vous pouvez enfin exercer votre regard. Le peintre marche, le musicien probablement aussi. En tout cas, c'est pas qu'il marche, mais c'est que l'inspiration qu'il peut retirer de la marche me semble tout à fait différente et beaucoup plus profonde et peut-être plus mystérieuse que s'il parcourt le monde à toute vitesse. Bien qu'on pourrait me contredire en disant que la vitesse a fini, notamment au moment du futurisme au début du XXe siècle, par devenir une forme d'inspiration et quasiment une école de la création artistique. Mais c'était peut-être quelque chose d'expérimental. C'était même probablement une forme de renversement de ce rapport très lent que naturellement nous avons avec le monde.
Quel est, Pascal Pic, l'intérêt pour mon cerveau de marcher?
Parce qu'en définitive, tout ceci est complètement lié. Je rappelle que nous avons, nous les homos, le genre humain depuis 2 millions d'années, une bipédie absolument extraordinaire. Il est vrai qu'on ne va pas vite. Nous n'avons qu'une seule allure qui est le trot. On a tous cette petite musique, il y a un compositeur qui est là, dans la tête d'un cheval au pas, tac, 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 4 temps, le trot, tac, 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 et le galop, tagalac, tagalac. Nous n'avons que le trot. Sauf que nous sommes la bestiole la plus endurante qui n'a jamais existé sur cette terre. Je rappelle des compétitions aujourd'hui en Amérique du Nord, il y a toute une histoire autour du cheval, la conquête de l'Ouest, et notamment les compétitions d'endurance pour les hommes et les femmes et les chevaux. Et on s'aperçoit aujourd'hui, avec des gens quand même relativement entraînés, mais avec des chevaux qui ne sont pas moins, que ces courses sont gagnées 6 fois sur 7 par des humains. Et puis, en faisant ce livre sur la marche, je suis aperçu, comme ça, a posteriori, que les philosophes qui m'ont toujours le plus plu,
ils s'intéressent pas tellement là. Ah oui, parce que dites aussi que la philosophie, c'est peu intéressé à la marche.
C'est pas intéressé. Alors, les péripatéticiens, c'est une autre histoire, mais ils sortaient pas des villes, ces gens-là, soyons très clairs. Et un jour, je vous raconte l'anecdote, je rencontre mon ami Michel Serre, et il me dit, c'est quoi ton prochain livre? J'étais en train de rédiger celui-là, donc, sur la marche. Et je lui dis, tu sais, il y a beaucoup de gens de littérature qui s'inspirent de la marche. Mais je lui dis, les philosophes se sont peu intéressés à la marche. Il y a peu de philosophes qui marchent. Et là, du coup, on a qui? Ben, il n'y a pas grand chose. Rousseau, bien sûr, évidemment. Mmh. On ne peut pas y échapper.
Un exemple.
Nietzsche. Et Michel Serre me dit, il y a Emmanuel Kant. Je dis oui, mais il était en ville. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes qui marchaient, et encore moins en dehors des villes. C'est ça qui est important. Et là, je dis, bon, j'en connais que trois. Rousseau, Nietzsche. Et il y en a un troisième. Il dit, c'est qui? Je dis, ben, c'est toi. Parce que c'est évidemment Michel Serre. Et comme Sylvain Tesson, il aime la montagne, il fait la varap, et il marche. Et voilà, j'étais pas rendu compte, dans ce livre, que sans être un grand intellectuel, mais quand même que ces grands auteurs, philosophes, avec lesquels j'avais beaucoup d'inspiration de leur part, étaient aussi des marcheurs.
Alors Jules Maton, vous avez fait allusion à lui, à ce sens de la musique qui est le sien, puisqu'il est compositeur. Comment vous entendez tout ça? Comment ça résonne en vous, vous, l'homme qui trotte?
Je m'efforce de marcher, mais je suis très parisien. Donc...
Prenez le métro.
Non, je marche. Je marche tout du long. Je fais de longues promenades parce que, en effet, vous citiez deux philosophes, il y a Socrate aussi.
Il sortait pas de la ville.
Il sortait pas de la ville, mais il y a toute cette idée que les idées circulent.
Tout à fait.
En marchant. Tandis que quand on est assis, et puis moi-même, très souvent, je suis assis devant mon piano et au bout d'un moment, je sens une paralysie mentale parce que les choses ne viennent pas. Et donc, je pars me promener 2 heures, je reviens et les choses circulent. Il y a une dialectique en moi qui se fait.
Et le rythme de votre marche imprègne-t-il la partition après?
Oui, absolument. Quand je cours, je suis dans des... Non, pas forcément.
Est-ce que ça impulse une énergie particulière?
Pas forcément. Je marche en général assez lentement, que j'écrive des choses rapides ou non.
C'est l'intérêt d'ailleurs de ralentir quand on marche. Il en parle beaucoup dans ses livres, Sylvain Tesson. Vous dites que d'abord, ça calme un peu la chaudière qui est en vous de marcher lentement. Vous nous incitez à ralentir notre rythme, Sylvain Tesson.
Oui, on peut tout à fait définir ce qui nous arrive à nous autres humains depuis les révolutions industrielles par l'accélération. Enfin, c'est une des définitions qu'on peut donner de la modernité. La massification, certes, la communication, évidemment, mais l'accélération. Et tout à coup, la marche nous permet de nous extraire de cette épilepsie qui a envahi le monde. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette idée du ralentissement et à cette idée de la demande, de la supplication qui est faite à l'exercice de la marche comme moteur d'inspiration, que Jules Maton vient très bien d'exprimer en disant que tout à coup, de même que l'écrivain quand il cherche un mot, il fait les 100 pas, probablement le compositeur quand il sent un blocage, il se lève et puis la musique jaillit. Et d'ailleurs, sans me livrer à un exercice très cuistre de critique de sa musique, mais on entend très bien dans un certain nombre de ces transpositions de poèmes sur le clavier, des moments de retenue qui tout à coup deviennent des libérations explosives, cataractiques, qui ressemblent très bien à ce qui se passe lorsque nous marchons et où on a l'impression que enfin, grâce à l'exercice physiologique de remuement, alors moi je ne suis pas un scientifique donc j'exprime ça avec des termes tout à fait littéraires et qui n'ont aucun sens technique. Ce que j'appelle le remuement, c'est ce moment où on a l'impression qu'on convoque en soi quelque chose, mais qui est probablement physiologique, et qui permet cette libération de l'inspiration que Jules Maton, lui, transpose dans sa partition. Pascal quand tout à coup, on a l'impression que Debussy a mis les doigts dans la prise de courant.
Pascal Pic est d'accord, hein, vous acquiescez.
Oui, mais absolument. D'abord, ce que j'ai remarqué en faisant cet ouvrage et en lisant, parce que je cite Sylvain Tesson, mais je me souviens, nous avions déjeuné ensemble au Salon du Livre de Nice et il y avait Christophe Onodibio. Et moi, ce qui m'avait
frappé... Qui viendra tout à l'heure dans la deuxième partie.
Et Christophe disait, dans ce magnifique roman qui s'appelle Plongée, il est avec cette jeune femme, je raconte pas l'histoire, en plus il y a un film récemment, il lui disait, non, on ne peut plus refaire les grandes marches que j'ai faites, parce que le monde est aujourd'hui un peu plus incertain avec les difficultés, l'actualité là. Mais néanmoins, Sylvain Tesson nous montre que c'est tout à fait possible. Je rappelle qu'en termes de littérature, c'est intéressant. Les villes où il y a eu les plus grands écrivains, c'est des villes où on marchait. C'est Dublin, c'est Paris, c'est New York, c'est San Francisco. Donc les deux sont liés. Mais maintenant, d'un point de vue plus scientifique, pardonnez-moi, je vais être un peu plus terre à terre, forcément. On sait aujourd'hui que lorsque vous êtes sur un sujet compliqué, Sylvain, dans l'enregistrement, fait une remarque sur, effectivement, ce management qui, évidemment, plutôt que d'épanouir les gens, les restreint dans des schémas prédéfinis et stupides. Quand on a une difficulté pour composer, moi, pour réfléchir sur un problème scientifique ou pour la panne de la page blanche. Paul Auster le raconte très bien dans une interview avec votre collègue François Bunel. Écoutez, quand ça bloque, c'est très simple. J'éteins l'ordinateur, je vais voir ma femme et on va se promener. Et on sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, et les neurosciences le montrent aussi, pour être dans la créativité, eh bien, vous allez marcher. Et en plus, s'il y a des arbres, s'il y a un beau paysage, eh bien, vous revenez, vous avez 60% de créativité en plus, pardon pour le chiffre, ça tombe comme ça. Et là, les études sont très claires. Et moi, je remercie les philosophes parce que c'est Frédéric Gros qui a relancé cette affaire-là, la marche, une philosophie.
C'est vrai.
Et on voit que la marche est consubstantielle de tout ce qui fait l'humain dans sa créativité et son inventivité.
C'est intéressant, une réaction ou des questions à poser à vos invités?
Non, j'abonde dans le sens de Pascal Pic, d'autant qu'il faut rappeler que son livre La marche est sous-titré Sauver le nomade qui est en nous, ce qui premièrement laisserait penser qu'il est menacé, je crois que tout le monde le constate. Deuxièmement, il est évident que si jamais la marche a des bénéfices physiologiques et qui deviennent ensuite des bénéfices intellectuels, enfin cérébraux, neurologiques, il est évident que la station assise que nous promettent les nouvelles dispositions de civilisation dans les villes est probablement dramatique pour tout ce qui concerne l'inspiration, je le crois profondément.
Et les enfants sont habitués à ça. Et les enfants sont habitués à ça de plus en plus jeunes. Moi, je voyais l'autre jour dans une poussette des gamins avec un casque sur les oreilles et des iPads pour éviter qu'ils s'expriment, qu'ils créent en criant et en s'exprimant dans le monde.
Oui, il faut savoir
ça. Et ça, je pense que c'est une grande tragédie.
Sylvain Tesson, quand il marche en Asie, par exemple, ou n'importe où, n'a pas d'écouteurs et n'écoute pas de musique. Vous dites que vous aimez tellement le silence, parce qu'en soi, le silence, c'est une œuvre d'art.
Oui, j'aime le silence, et j'aime aussi une chose qu'apporte la marche, c'est que la marche nous ramène à un contact pur avec ce dont nous venons, qui est la terre. Or, dans la station assise, dans un immeuble, dans un bureau, nous sommes évidemment séparés par une couche stratigraphique de béton de la terre. Je crois que Jules a transposé un poème de Jacotet qui s'appelait
« Si je me couche contre la terre ».«
Si je me couche contre la terre », où Jacotet entend l'émanation, l'écho des morts, des défunts, des disparus, des fantômes de sa femme. C'est une idée absolument magnifique, parce que c'est une idée organique qui nous ramène d'ailleurs probablement à des pratiques spirituelles très anciennes, enfin peut-être primordiales même, le moment où tout à coup on sait que le souvenir des morts va être absorbé par le substrat et que nous pouvons en recevoir quelques échos. Je crois qu'il y a quelque chose d'équivalent chez le marcheur qui va renouer ce contact primitif.
On va parler de la poésie dans un instant, parce qu'il y a aussi des poètes marcheurs. On peut citer Rimbaud, que vous citez vous aussi, Pascal.
Mais bien sûr, oui. Hein,
l'homme aux semelles de vent, comme l'appelait son camarade Verlaine.
Oui.
Et il a été chanté, Rimbaud, par Jean-Louis Aubert, notamment ce poème que vous connaissez, Sensation.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Et l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. J'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue.
rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, et l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Avec une femme.
En écoutant ce poème, Pascal Pic, Sensation, on se disait que c'était bien aussi de chanter quand on marche. Ça vous est arrivé, ça?
Ah oui, quand j'étais jeune. Alors, j'ai pas été scout, mais j'ai fait des colonies de vacances. Ensuite, en étant plus âgé, je me suis mis à monter à cheval. Et là, il y avait les vieux cavaliers et il y avait encore des chansons de cavaliers qui sont pas d'une grande finesse, je vous l'accorde. Mais en tout cas, c'est ce lien qui se crée entre la marche et d'un seul coup... La seule façon, en fait, de communiquer même entre les espèces, c'est le rythme. Donc, le rythme de la marche, le rythme du pas des animaux, le rythme de la chanson, tout ceci sont des choses qui, en fait, impliquent l'ensemble de notre corps, notre physiologie, notre proprioception. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dramatique parce que on ne chante plus en marchant, on ne chante plus en étant des cavaliers. Et je crois que, malheureusement, ça participe un petit peu de cette perte de la cohésion de cette vie de tribu, au sens le plus intéressant et plus fondamental du terme.
Oui, parce que pour vous, la marche, c'est souvent quelque chose de collectif dans votre idée.
Pas forcément, hein. La marche en solitaire, c'est aussi très bien, mais je crois qu'il y a différents types de marches.
Je pense que c'est celle-là que vous aimez, pour vous avoir lu.
J'aime les deux, et j'aime aussi la marche avec sa femme, avec ses enfants, avec partir avec un chien, et elles font toujours du bien.
Sylvain Tesson, lui, marche avec ses camarades. Vos amis ont tendance à vous dire « je vais pas très bien, emmène-moi marcher, je suis sûr que ça va me faire du bien, emmène-moi grimper ». Vous êtes très sollicité, paraît-il, par vos amis. Vous les emmenez systématiquement ou vous préférez garder cette solitude?
Non, ça m'est arrivé d'avoir des camarades qui perçoivent tout ce que nous disons autour de cette table depuis quelques minutes maintenant. Tout cela appartient au domaine de l'intuition. Il me semble que beaucoup de nos semblables savent qu'ils pourraient demander une forme de recours de rescousse.
Parce que ce sont souvent des amis qui vont mal qui vous demandent ça.
Oui, enfin qui se sont trouvés victimes d'une adversité ou d'un mauvais sort et qui me demandent de les emmener dans la forêt ou dans la montagne. C'est arrivé à un de mes amis qui s'appelle Ludovic Escande, qui d'ailleurs est mon éditeur chez Gallimard et qui m'a demandé un jour de grimper en haut du Mont Blanc.
Alors qu'il a le vertige ?
Il a le vertige, j'aime pas du tout ça, il connaissait pas la montagne, il avait jamais dépassé l'altitude de, je sais pas quoi, de 3500 mètres.
Mais il était déprimé.
Et c'est ça, et alors ils l'avons emmené au sommet du Mont Blanc, il y avait Jean-Christophe Ruffin qui était avec nous.
Un de vos meilleurs amis.
Et ça a été comme le fait de déboucher une bouteille où se contient des gaz nocifs, vous savez, je parle du champagne par exemple. Et bien à ce moment-là, on a eu l'impression de faire sauter quelque chose en lui qui n'allait pas, et quand il est descendu, il n'était plus le même.
Et en plus, il a fait un livre où il raconte ça, et où il vous raconte, il y a un très beau portrait de Sylvain Tesson dans son livre.
Bah, il a beaucoup d'indulgence. Il n'allait pas non plus planter un piolet dans le dos de celui qui l'avait encordé.
L'écrivain peut tout se permettre.
Oui, enfin non, mais je ne suis pas Trotsky. Il ne m'a pas achevé d'un coup de pique à glace.
Sylvain Tesson, vous souhaitiez la présence de Jules Maton, que vous avez connu petit garçon. Vous étiez ami de son père, le peintre, le dessinateur, le cinéaste Charles Maton.
Oui, mais nos pères étaient très amis. Et j'ai rencontré Jules Maton quand j'étais beaucoup plus jeune et lui était enfant. Et puis après, j'ai appris à écouter sa musique et j'ai été très impressionné d'abord par le caractère fulgurant de sa carrière, on peut le dire, puisqu'il disait lui-même qu'il était jeune. C'est vrai, c'est un jeune compositeur. Schubert aussi a été jeune à un moment, avant d'être un compositeur du 19e siècle. Et à un moment, il était un contemporain. Non, et ce qui m'a
il
beaucoup...
n'a été que jeune.
Il n'a été que jeune. Oui, oui, bah, je te souhaite une vie beaucoup plus longue, bien sûr.
Il me restera un an, sinon.
Mais ce qui m'a beaucoup intéressé et qui continue à m'intéresser dans l'inspiration de Jules Maton, c'est tout à l'heure Pascal Pic parlait du rythme et de l'énergie de la marche, et il y a quelque chose qui bizarrement est tout à fait transposable. On pourrait tisser une forme d'allégorie entre cette capacité d'oscillation très brutale, entre une forme de douceur mélodique, narrative, quasi anecdotique, picturale, qui peut faire penser à un prélude, à la visite d'un jardin, et puis soudain une électrocution. Moi qui m'intéresse beaucoup à tous les phénomènes épileptiques, qu'ils soient artistiques ou physiologiques d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup, moi, ces ruptures soudaines, voilà, que je ressens beaucoup chez Jules. Et puis ensuite, ce sera ma conclusion, je m'intéresse beaucoup à la transversalité des arts. Or, qu'un compositeur de musique de l'âge de Jules veuille souvent créer une transposition d'un poème, c'est-à-dire injecter la littérature dans la partition, je trouve que c'est un très beau salut, très noble, et je le remercie.
C'est vrai que les poèmes et les poètes contemporains vous inspirent, Jules Maton. Je pense à Michel Houellebecq, je pense à Jacques Otté, vous venez de le citer, et puis il y a aussi Mathias Sénard.
Oui, absolument.
Puis il y a Homère aussi.
Et un petit
pas des moins Homère contemporain, puisque voilà. Vous venez de composer votre premier opéra qui s'intitule L'Odyssée. Donc la plus grande inspiration de Jules Maton, 30 ans, c'est pour l'instant la littérature.
C'est la vie de manière générale, donc c'est la littérature. J'ai beaucoup lu dans ma vie, Houellebecq, je suis un très grand lecteur de Houellebecq. Mathias Sénard, je connaissais moins, c'était une commande qu'on m'avait faite. J'ai découvert ses poèmes à cette occasion-là.
C'est vrai qu'un compositeur travaille beaucoup avec des commandes.
Oui, absolument. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire que quand j'ai écrit Houellebecq, j'avais encore la liberté de pouvoir choisir les textes que j'avais travaillé. J'espère que je vais la retrouver dans un prochain stade, disons.
Mais les deux styles d'écriture sont intéressants, j'imagine. À la fois la contrainte et l'inspiration naturelle.
Oui, absolument. Mais enfin, c'est-à-dire, il faut se fixer ses propres contraintes, parce que si on n'a pas de commande, si on ne doit pas rendre, si personne ne nous attend, à ce moment-là, il faut vraiment se dire dans 2 mois je termine telle pièce, dans 1 mois et demi je termine, parce que sinon
dire à votre cerveau il faut que tu me donnes de l'inspiration, il faut que tu sois inspiré.
Oui, voilà, c'est ça, il faut que tu sois inspiré, il faut que tu te lèves le matin, surtout parce que c'est pas évident si personne ne nous sort du lit.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est pas évident, on peut vouloir rester sous les draps et puis manger au lit, enfin on peut vouloir rester allongé, quoi.
Alors du coup vous faites quoi, vous vous levez, vous asseyez où?
Ouais, je me force, je me fais violence, je prends mon café et je vais au piano, et parfois ça ne vient pas, à ce moment-là je sors au soleil marcher dans le silence, parce que je rebondis sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, le silence permet la musique, et il est très important d'avoir de longues plages de silence, et le drame peut-être d'aujourd'hui, c'est que la musique est partout et que les gens ne savent plus écouter. Donc je passe beaucoup de temps en effet dans le silence pour que les choses macèrent et macèrent bien, de manière à ce que l'inspiration puisse venir et surtout que j'ai les capacités de la mettre en forme.
Et après une bonne marche, par exemple, Jules Maton peut composer ce trio pour violon, violoncelle et piano. On vient d'écouter 1 minute 23 de ce trio pour violon, violoncelle et piano. Et Jules Maton nous disait autour de cette table, cette première minute, j'ai mis combien d'heures ou de jours à la composer?
Combien d'heures, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai mis longtemps, j'ai mis 3 semaines, voilà. J'essaie de vous expliquer que le temps de la composition était comme le temps de l'écriture ou le temps de la peinture, enfin tout temps créatif est très élastique et il est difficile de prévoir. Et les 2 minutes qui suivent, pour tous ces auditeurs qui vont désormais acheter ce disque.
Il est très fort. Ce disque qui s'intitule Livre 1 et qui est le premier disque de Jules Maton, édité chez
Fondamenta.
Les
deux minutes qui suivent donc exposent le second thème, qui est le thème féminin, qui est le thème blanc. Et ce thème que j'ai écrit en à peu près une journée ou deux. Voilà. Comme quoi, tout ça est très complexe et très douloureux, parce que buter sur une minute pendant trois semaines, mais bon, ça s'entend ou pas que c'est laborieux?
Que ça a été laborieux. Pascal Pic, ça vous intéresse de rencontrer des artistes et des écrivains, vous, monsieur le scientifique, qui observez, qui ressentez aussi?
Bien évidemment, je crois que, sans tomber dans les clichés sur l'imaginaire, moi j'ai un grand héros, vous le savez, c'est un peu scientifique, c'est Charles Darwin, qui avait épousé sa cousine Emma Wedgwood, qui avait eu comme professeur de piano un certain Frédéric Chopin.
J'ai entendu parler.
C'est quand même pas mal. Et tous les soirs, Charles Darwin avait le plaisir d'entendre sa femme jouer des sonates et ensuite lui lire un chapitre de roman. Eh bien, moi, je vous assure, il faut que j'essaye de m'imposer ces disciplines, comme sortir du lit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, que je m'impose de lire des romans, de la poésie.
Vous avez un auteur de chevet, Pascal Pic, c'est Balzac. Et voilà quelqu'un qui savait parler de la marche.
Oui, il savait parler de la marche et d'ailleurs il fait un travail d'anthropologie hein, quand il raconte que malheur aux Parisiens qui passeront devant moi lorsqu'ils s'installent sur une chaise sur un des grands boulevards haussmanniens. Et puis surtout ce qui m'a frappé chez Balzac, j'avais complètement oublié ça depuis l'école, c'est que quand même l'ouverture de la comédie humaine est un résumé, le meilleur que je connaisse, de l'état des connaissances à cette époque-là, du temps de Balzac, donc au 19e siècle, de ce qu'était la perception de l'évolution de l'homme, de ses origines. Il y a Camille Flammarion aussi qui a beaucoup contribué. Il faut bien comprendre que, en effet, ces grands hommes de littérature et ces femmes, évidemment, ont apporté énormément, à la fois dans la compréhension pour les chercheurs et les scientifiques de leur métier, mais aussi de cette tradition, cette vision absolument formidable des mondes perdus. Parce qu'on accuse les scientifiques d'être matérialistes. Mais attendez, imaginez que vous soyez dans la peau de Galilée, en 1605, je ne me trompe, qu'importe, mais vous êtes le premier homme, le premier humain dans l'histoire de l'humanité à voir quelque chose que personne n'a vu grâce à une lunette. Vous sortez de votre réalité biologique qui nous a été guidée par l'évolution. Et les sciences ont permis d'ouvrir des mondes microscopiques, macroscopiques. On parlait tout à l'heure des insectes, microcosmos et du cosmos. Ben, c'est bien ça la science. Mais la science ne peut pas se permettre que d'observer, elle a besoin aussi de poésie et de littérature.
Est-ce que vous aimez Homère ?
Bah, évidemment.
Est-ce que Homer est un bon maître pour étudier la condition humaine, Sylvain Tesson? Vous qui sortez un été avec Homer, là, aux Équateurs parallèles et coédition France Inter.
Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'invariants humains qui ont été décrits par Homer et qui, par définition, structurent toujours nos comportements. Mais j'entendais parler Pic à l'instant et je me disais, sans vouloir établir d'acrobatique analogies entre les sciences homériques et les sciences de la paléontologie, on aurait grand tort de penser que le scientifique n'est pas un homme de lettres, et surtout le paléoanthropologue, parce que la paléontologie contient en elle une forte part, non pas de littérature, mais d'esprit poétique et d'esprit de déduction. Vous savez, c'est l'histoire de l'os de Cuvier. On prend un os et puis on imagine un animal. Il y a une part d'imagination tout de même. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une science exacte, mais on est obligé parfois de recourir à des principes d'interprétation lorsque l'on est paléontologue. Et lorsqu'on est paléoanthropologue, on s'intéresse, comme dans les études homériques, on s'intéresse aux invariants humains. L'homme a été quelque chose, finalement il ne s'est jamais refait. Nous sommes ce que nous étions et ce que nous continuons d'être. Et tout ça est éminemment littéraire, d'essayer de chercher chez nos très lointains ancêtres les choses qui nous meuvent toujours.
Jules Maton, l'opéra de Compiègne vous a commandé l'Odyssée, un opéra, premier opéra dont le livret est signé d'une jeune auteure de théâtre, Marion Aubert. Ça doit faire un drôle d'effet quand on vous dit « écrivez-nous quelque chose sur l'Odyssée ». Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas?
Je ne suis pas du tout senti intimidé.
Oui, j'imagine.
Pourquoi vous dites ça? Ça m'a évidemment complètement intéressé. Je me suis replongé, parce que je l'avais lu adolescent, je me suis replongé notamment dans la traduction de Jacotet,
oui,
qui est absolument formidable. Et Marion Aubert en a tiré un texte très poétique, très joli. L'opéra dure 1h20, donc là, il y a pas mal d'épisodes qui ont été éclipsés. Mais sa perspective est intéressante dans le sens où elle a pris le point de vue de Télémaque. Moi, je voulais que l'opéra s'appelle Télémaque au départ. Puis on m'a dit non, c'est pas vendeur. Mais j'aurais trouvé ça assez approprié.
Donc le fils d'Ulysse.
Oui, oui, le fils d'Ulysse, voilà, qui se plaint de l'absence de son père, qui se plaint que son père est parti. Et le fils d'Ulysse va voir ses camarades, qui sont les fils des compagnons d'Ulysse, et leur dit « Mon père est parti, mon père m'a abandonné, mon père est un salaud, en gros. » Et les fils d'Ulysse, donc, qui sont interprétés pour la plupart d'entre eux par des enfants, parce qu'il y a un cœur d'enfant dans cet opéra.
Un cœur très important, d'ailleurs.
Oui, oui, c'était d'ailleurs formidable de travailler avec eux, c'est la première fois que je travaille avec des enfants, réconforte Télémaque en lui disant « Mais non, il a fait ça pour des raisons très précises, ton père est un héros, ton père est un type formidable, et nos pères avec lui sont un type formidable, regarde, ils ont fait ça, ça, ça. » Et les enfants racontent en fait l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée à Télémaque. Et Télémaque se rend compte que son père est un type formidable.
En fait, vous racontez une jeune génération.
Oui, et puis ça rejoint toutes les thématiques des enfants élevés par leur mère seule, des fils abandonnés. Voilà.
D'ailleurs, c'est très poétique le sous-titre de l'Odyssée. C'est « Opéra pour 12 paysages, soliste, quatuor à cordes et orphelin ouais. d'après Homère ».
C'est de Marion.
Ça vous donne envie d'écouter cet opéra parce qu'elle pique.
Absolument. Vous savez, la marche a fait ce qu'est l'humanité, parce que nous sommes les seuls grands singes qui se sont libérés du monde des arbres. Mais sans les marcheurs, d'Hérodote en passant par Darwin, Bruce Sherwin, George Schaller, etc. En fait, on n'aurait jamais reconstitué l'histoire et la préhistoire. Donc c'est cette double articulation qui est absolument fascinante à la fois dans ma discipline et l'avenir de l'humanité, où là je m'inquiète parce qu'il y a une petite remarque de Monsieur Maton sur les écrans. Vous savez qu'on a une nouvelle catégorie humaine qui émerge dans nos villes, ça s'appelle les smombies. C'est une contraction entre smartphone et zombies. C'est-à-dire, ils marchent avec les écouteurs, ils regardent que leur écran, ils repartent dans l'autre sens, une inversion ontologique, c'est-à-dire on repart la tête baissée. Et c'est dramatique parce que c'est 10 à 20% d'accidents et de morts dans nos villes. Et donc, ne plus marcher, ne plus regarder le paysage et ne plus être en contact est aujourd'hui un indice extrêmement inquiétant de l'avenir de notre humanité qui devient de plus en plus citadine.
Et d'accidents cérébraux aussi, parce que l'attention est captée d'une manière que tout le système cognitif est complètement perturbé par toutes les sollicitations des réseaux sociaux, de la publicité, tout ça.
Ce que je retiens, c'est qu'il faut marcher, de préférence seul, chanter de temps en temps, et ouais. ne pas avoir d'écouteurs.
Et de téléphone portable.
Oh bah c'est pas drôle la vie. Allez, on écoute.
Si, justement.
Leon Bridges, Beyond.
Don't wanna get ahead of myself. Feeling things I've never felt. It's kind of hard for me. Explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond, beyond. Space and time in the afterlife, will she have my kids, will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet ya. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Shoe might fit. She might just be my everything. Get beyond, beyond space and time.
She might just be my everything and beyond.
Merci Pascal Pic d'être venu rencontrer Sylvain Tesson dans son
merci
grand
à vous,
atelier.
Puis je remercie Sylvain pour l'invitation. Bien
sur
sûr.
France Inter, je rappelle le titre de votre livre paru chez Autrement, La Marche. Sauver le nomade qui est en nous, Pascal Pic. On vous imagine, petit garçon avec vos parents maraîchers en train de courir dans les champs. Vous décrivez très bien ça aussi et ce plaisir que vous aimez prolonger finalement quand vous vous baladez aujourd'hui. Il y a aussi un nouveau livre, Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du transhumanisme expliqué à une lycéenne. Il y a toujours ce souci du maître de conférence que vous êtes au Collège de France de pédagogie. C'est paru aux éditions Alary. Et puis notre jeune compositeur Jules Maton a sorti un très beau disque intitulé Livre 1. Vous promenez, j'imagine, la saison prochaine, votre opéra L'Odyssée. Mm-hmm. Eh bien, bonne suite.
Merci.
Dans un instant, les informations et puis tout de suite après, la suite du Grand Atelier.
Pour fixer les impressions, j'ai pris des notes. J'ai fait des journaux de bord. Et je me suis tellement intéressé à ces journaux de bord que ce sont de véritables petits livres que j'ai accumulés en me disant toujours « Celui qui lira ça plus tard, eh bien, revivra un peu ce que j'ai vécu. »
Le fait est que un chamelier du désert, un contrebandier du golfe Persique, un cosaque de Sibérie, un noir qui vit au milieu des bêtes sauvages ou un cavalier afghan me touche plus et m'émeuve davantage que les gens qui vivent comme moi.
Quand on se lance dans un espace qui a 800 km de long, il n'y a rien à contourner, c'est tout droit. Il suffit d'avoir une boussole pour tomber sur le puits. Un peu de choses près, quelquefois on peut se tromper un petit peu. Maintenant on ne peut plus parce qu'on a des appareils de positionnement par satellite. Ça change tout, on ne peut plus se perdre. C'est même plus drôle.
Les voix de grands écrivains voyageurs, Henri de Montfred, vous les avez reconnus, Sylvain Tesson, Joseph Kessel, Théodore Monod, pour vous évoquer, vous le grimpeur, le marcheur, l'homme aux cordes, aux mousquetons, à la cornemuse écossaise, à la flûte, au chapeau à plumes, au bâton, au carnet, j'en oublie.
De quoi, des accessoires, oui, la flasque de whisky.
Ah oui, la flasque, oui. Mais non, vous ne buvez plus.
Non, c'est fini maintenant.
Vous la regardez.
Même plus, pour pas, je crains les menaces.
D'autres invités sans flasque à votre table, les convives de ce grand festin dominical, la philosophe Cynthia Fleury, bonjour.
Bonjour.
Le monsieur culture du journal Le Point et néanmoins écrivain Christophe Onodibio qui arrive d'Italie, bonjour Christophe.
Bonjour.
Le comédien Robert Bouvier qui joue François d'Assise d'après Joseph Delteille au Théâtre de Poche à Paris, bienvenue à vous.
Bonjour.
Étienne Dao s'invite à la fête, nouvel extrait de son disque Après le Blitz.
Nous danserons dessous les bombes, derniers adieux à l'autre monde, dans nos uniformes noirs et or, sur le dance floor. Oh, des adieux à l'autre monde dans un ultime bras d'honneur, sans les médailles et sans les fleurs, nous chanterons.
Parce que la vie m'étouffait, comme le col d'une chemise trop serrée. Je suis parti parce que le bruit du monde m'assourdissait, et j'étais étourdi de n'avoir plus de temps. Je voulais vivre de la lenteur, de la simplicité, de l'émerveillement, ne garder que l'essentiel. Or, on ne peut pas garder l'essentiel. On le découvre.
Vous reconnaissez cette voix, Sylvain Tesson, c'est celle du comédien Raphaël Personnage dans le film Les Forêts de Sibérie, adaptation de votre livre Prix Médicis d'ailleurs, dans Les Forêts de Sibérie, un homme qui part vivre pendant 6 mois dans une cabane de février à juillet, si je ne m'abuse, au sud de la Sibérie face au lac Baïkal. Cet homme, ça a été vous, et une auditrice vient de nous écrire « Moi, grâce ou à cause de Tesson, je fantasme le lac Baïkal et j'ai envie d'aller me perdre en Sibérie. » Vous oui. suscitez souvent comme ça des désirs de voyage?
Je ne sais pas, mais tant mieux. Je suis très content qu'un film ait montré de la Russie un visage autre que celui de la trinité mafia, alcoolique et prostituée de la Crimée. Mais il y a là, dans le film de Nebout, enfin, la chose qui m'a beaucoup plu, c'est une présentation de la Russie par son paysage et par sa profondeur
Et puis c'est un film
naturel.
Et un livre sur la contemplation.
Oui, oui, sur la contemplation, sur la solitude, sur la nécessité du retrait, quoi, sur le pas de côté.
Cynthia Fleury, Madame la philosophe, c'est vrai que vous avez voyagé, marché, aux côtés de Sylvain Tesson?
Oui, c'est vrai.
Racontez-nous!
Oh là, je ne suis pas sûre que ce soit racontable jusqu'au bout, puisqu'il y a eu des moments quand même un peu... D'abord, il y a eu des moments en hauteur, il n'y a pas eu que des moments horizontaux. Et donc, les moments verticaux ont été un petit moment plus compliqués, puisque moi j'ai fait un vol, comme on dit. J'étais assurée de manière un peu leste par Sylvain qui... Je vois Christophe qui...
Ah bah, tu m'as raconté l'histoire.
Oui.
Alors racontez-nous, c'était où, c'était quand?
Non, comme dirait l'autre, j'ai fait 2 expériences en une, la première et la dernière. Et moi, je trouve que c'est... tout à l'heure, vous aviez une auditrice qui expliquait que ça lui a donné de lire Tesson l'envie d'aller voyager. Moi, ce qui est merveilleux, c'est que précisément, ça me donne l'envie du contraire. C'est-à-dire que j'ai un plaisir infini à savoir que Sylvain et d'autres grands voyageurs écrivains parcourent ce monde à ma place. Et c'est extraordinaire ainsi. Et je ne suis pas sûre d'avoir ni l'intelligence de l'accueil, ni aussi la robustesse, parce que c'est une histoire physique tout de même, ces aventures au long cours. Et je ne suis pas sûre d'avoir même la patience, la relativité, etc., pour encaisser tout ce monde là qui se déploie de manière forte et puissante. Et grâce à la médiation de l'écriture, grâce à la littérature de Sylvain, j'en ai à la fois la force... Et en même temps, je dirais, le caractère plaisible, la plénitude.
Chez vous, allongé sur votre lit.
Oui, partout, parce que ça crée, la littérature crée un espace-temps autour de soi et c'est merveilleux.
On va faire réagir, voire témoigner, Sylvain Tesson.
Non, mais vous faisiez référence à une petite aventure tout à fait anecdotique qui nous est arrivée à Cynthia et moi lorsque j'ai voulu l'emmener dans les calanques de Marseille pour faire une grimpette et une escalade. Et il y a eu effectivement des péripéties, ça s'appelle d'ailleurs les aventures. Je dois dire que j'ai dû commettre, en lui proposant de faire cette ascension, un contresens à la lecture de son livre Les Irremplaçables, puisque j'avais cru comprendre Le début du livre de Cynthia commence par l'idée que le processus d'individuation de l'être commence par la liaison au réel. Je crois la citer, se lier au réel. C'est comme ça qu'on commence par s'acheminer vers l'individuation. Alors je me suis dit, je vais lier Cynthia au réel.
Mais par une corde,
c'était mal assuré.
C'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait peut-être l'entendre.
Et ce à J'ai été donc lié, oui. littéralement.
Mais ce à quoi Cynthia Fleury ajoute que l'individuation passe souvent par le processus de la déception.
Oui.
Cynthia Fleury, si vous voulez bien nous préciser ce que c'est que l'individuation.
Alors, l'individuation, c'est très simple. Hein. C'est le processus de construction d'un sujet. On pourrait dire la subjectivation. Moi, j'ai préféré utiliser ce vieux terme philosophique et psychanalytique d'individuation, tout simplement pour faire un sort au terme d'individuation. Et de rappeler que l'individualisme ne dit pas la seule manière dont se constitue un individu. Un individu, il se construit par le manque, il se construit précisément par la liaison au réel, il se construit par un autre, par une corde, que sais-je, avec un autre, ou éventuellement une corde avec le réel de la mort. Donc c'est certainement pas l'individualisme au sens de conscience infatuée de soi-même, boursouflée, etc. C'est pas un délire mégalomaniaque, l'irremplaçabilité, c'est pas je suis merveilleux et personne d'autre. C'est précisément j'ai conscience que je ne suis pas monde. Et donc, c'est à partir de là que commence le chemin de l'individuation qui, moi, me paraît en revanche nécessaire pour trouver sa place, trouver une place, peut-être pas ça, mais trouver une place dans le monde et pour constituer ce monde. Encore une fois, c'est une manière, alors c'est peut-être ma position de clinicienne et de philosophe politique, mais encore une fois, moi, la confrontation avec le réel de la mort et donc la finitude, qui m'est pas simple, et je vois qu'il n'est pas simple pour quantité de personnes, j'ai vu dans cette capacité de construire une individuation quelque chose qui pouvait faire face à cette question de la finitude, dans le sens où elle peut sublimer cette finitude et on peut éviter de construire un ressentiment qui, je pense, est encore plus mortifère que la mort elle-même.
Vous ne tenez pas un discours ambiant qui est de dire dans toutes les entreprises ou la plupart, vous êtes tous remplaçables. Vous vous dites non, vous existez, revendiquez-le, chacun d'entre vous.
Oui, l'irremplaçabilité est une condition d'autoconservation de soi, si on veut le dire dans une langue plus spinoziste, c'est un conatus, tout simplement. Hein, c'est ce désir de vivre, ce désir effectivement de dire je suis une existence, cette existence constitue un monde, elle participe de la constitution aussi du monde commun et il s'avère que en plus quand un individu a le sentiment d'être remplaçable, là encore ma vision de clinicienne dit bah, c'est très simple, il y a deux chemins, soit il tombera malade pour précisément montrer sa santé, comme il est sain, il va tomber malade parce que être remplaçable n'est pas tenable pour un individu sain. Et en revanche, éventuellement, il pourra basculer dans un passage à l'acte contre autrui, plus mortifère, etc., etc., si il est dans un au-delà du découragement.
J'ai l'impression que Christophe Onodibio prend des notes de tout ce que vous dites.
Oh, tout ce que dit Cynthia m'inspire. Donc je.
Fayot.
Oui.
Pourquoi ça vous inspire, ça, particulièrement? Vous aussi, vous travaillez dans des entreprises de presse où on vous dit, Coco, demain, ça peut être quelqu'un d'autre à ta place.
Parce que c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de remettre de l'humain, de la singularité, de l'altérité dans un monde qui tend à vouloir conformer tout le monde à un simple modèle unique. Et l'altérité, mais il n'y a que ça qui m'intéresse, la singularité et les irremplaçables. On avait l'occasion d'ailleurs d'en parler dans une conférence qui était dans un domaine avec beaucoup de personnalités plutôt liées au monde aussi de l'entreprise et c'est absolument essentiel et je trouve que son message, elle a raison, oui, de le communiquer. Après, bon, il faut qu'elle évite de suivre un peu trop Sylvain dans cette expérience de l'altérité à soi, c'est-à-dire en fait la fille qui est dans son lit chez elle et qui finalement accepte de suivre un aventurier sur une paroi.
Mais c'est le sens de l'amitié. Hein. L'amitié te mène toujours dans des endroits, on va dire, inappropriés.
Je crois qu'il y a quelque chose qui surnage de tout ça et qui est un terrain de réconciliation. Malgré les péripéties qui sont arrivées, malgré les enthousiasmes de chacun pour des éléments qui sont tout à fait différents, puisque moi, encore une fois, c'est la montagne. Christophe, Onodibio, tout le monde le sait, ce sont les profondeurs sous-marines. D'abord, il y a un lien avec le réel, nous le disions tout à l'heure, comme l'un des grands axes de tension de la recherche de l'individuation. Et puis, il y a ce que Cynthia Fleury souvent convoque comme une nécessité pour atteindre ce moment où on se reconnaît comme irremplaçable et qui est l'attention portée au monde et au réel. Et là, moi, c'est l'une des thématiques de Désir remplaçable qui résonne beaucoup en moi, l'attention. C'est-à-dire ce moment où il faut s'efforcer d'être dans un aguet permanent, de tenir tout, son âme, son esprit, son appareil sensoriel, en haleine, pour ne rien laisser s'échapper.
En fait, tout à l'heure, quand Cynthia parlait, j'avais l'air de rechercher quelque chose. Je cherchais en fait une phrase de George Steiner, que j'adore, et qui montre que les choses, justement, ne sont pas aussi simples qu'on voudrait qu'elles soient, et qui vont tout à fait dans le sens de ce que disait Sylvain. Steiner disait « Quelque chose a surgi là-bas, donc en Grèce, quelque chose dans cette immense lumière et clarté du jour qui a accentué le mystère de la nuit. » Ça ne veut pas dire que la Grèce, ce que tu retrouves sur tes parois, sur les calanques, le soleil qui frappe la roche, il y a un éblouissement, mais cet éblouissement sert à accentuer un mystère, une nuit. C'est-à-dire que donc les choses sont toujours beaucoup plus complexes, beaucoup plus assemblées, beaucoup plus presque en union, presque érotique, en tension érotique permanente. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime chez Sylvain, c'est ce côté tout à l'heure.
Grimper, oui. Plonger, coexistence des contraires.
Oui. Et tu sais ce que disait Simone Veil, la philosophe, que la grâce, c'était tomber vers le haut.
C'est ça. Moi, je suis dans la pesanteur et toi, tu es dans la grâce. C'est
non,
ça que tu es en train d'essayer d'insinuer.
Tu inverses la chose. Non, toi, tu dois lutter avec ta pesanteur pour justement atteindre la grâce et atteindre l'équilibre. Cynthia, on a fait les frais. On voit ce que ça donne.
Non, pas du tout.
Elle a l'air d'aller bien, notre
Mais
philosophe.
Oui, nous sommes tous tombés vers le haut.
On va se retrouver et parler ensemble, y compris avec notre camarade comédien suisse, Robert Bouvier, qui joue François d'Assise dans un instant. Juste après Françoise Hardy, Le Large.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai. Aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucun.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Sylvain Tesson, j'aimerais bien que nous entendions Robert Bouvier, comédien suisse qui joue François d'Assise de Delteil au Théâtre de Poche. C'est un spectacle que vous avez commencé en 1994 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Vous êtes venu avec le dernier bouquin de Sylvain Tesson, Robert, intitulé Un été avec Homère.
Oui, qui m'a passionné et qui me parle beaucoup en ce moment puisque je joue François d'Assise. Et j'y trouve vraiment
des correspondances,
avec Ulysse, avec tous ces héros. Qu'est-ce que c'est la différence entre un saint et un héros? Il y a cette quête de l'essentiel, de trouver sa place dont vous parliez, l'envie de se dépasser. Effectivement, moi j'étais heureux d'être avec ces invités parce que je crois aussi au merveilleux. Je crois aussi
au merveilleux, c'est le roman de Christophe Onodibio,
que l'enfance nous sauve. Et quand je joue, je suis dans cette enfance, je suis aussi aux aguets, dans l'instant, au sens du présent, comme un cadeau, présent à soi, présent aux autres, dans une harmonie qu'on cherche. Et ça s'appelle François d'Assise et non pas Saint François d'Assise, puisqu'on parle d'un homme. Oui. C'est une histoire d'humanité. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que le divin? C'est ça qui m'a beaucoup touché.
Un homme et son rapport à l'émerveillement de la nature. Hein.
Voilà, d'être toujours en appétit de vie, d'être en quête d'une essence. Et puis de s'étonner de ce qui existe. Cette phrase que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que le divin? Et ça, je l'ai découvert, je reprends des mots de Sylvain Tesson. Se tenir là dans le rayonnement de l'existence, s'harmoniser aux vibrations nues, exhaler la pure identité. Un comédien sur scène, plus il essaye d'ôter le maquillage, les masques.
Y compris les habits, vous êtes tout nu à un moment.
Il paraît. D'être dans un abandon, d'être réceptif, acteur et agi en même temps, d'être dans ce présent-là. C'est peut-être là qu'on touche à autre chose. Et effectivement, votre envie de ne plus être dans l'enchaussement, dans la grisaille, dans l'accessoire, dans le superflu, dans le consumérisme, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'effectivement, on peut être heureux avec la nature. Et François d'Assise, comme ces héros grecs, il est déjà là à dire attention. J'aime beaucoup ce que vous dites aussi sur le scamandre. La nature qui se révolte, qui se fâche, apprendre à s'émerveiller de ce qu'est là. Et un acteur, bien sûr, un mot, ça suffit à le rendre heureux. Quand Delteil dit le pas plaigné de l'aube, l'œil frais de la source, ou qu'il appelle un cabri, un papillon de prairie, ou un oiseau, un copeau de vie envolé de la varlope du charpentier du monde. Voilà, ça suffit, ça vaut tout. Toutes les drogues, tous les breuvages.
Sylvain Tesson.
J'aime infiniment chez Delteil ce lyrisme extravagant, cette ivresse sémantique. Et puis, si vous me permettez, je voudrais simplement dire une chose à propos de cette jouissance que Delteil éprouve et qui n'est pas sans rappeler ce que Christophe Onodibio nous disait à propos de la capacité des Grecs à aimer ce qui apparaissait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si le mot est bon, si c'est celui-là qu'il faut employer, mais enfin c'est celui qui me vient. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du paganisme, c'est-à-dire de l'adoration de ce qui est dans ses formes vivantes. Je suis très sensible, moi, à cette idée qu'on peut se contenter du monde, de ne pas recourir ni aux chimères de la réalité virtuelle, ni aux promesses de l'intelligence artificielle, ni aux écritures des outre-mondes et des vies éternelles qui probablement nous arracheront plus tard à notre vie terrestre. Non, l'autre miracle grec, c'est cela aussi, c'est se contenter du monde. Et Cynthia Fleury, dans Les Irremplaçables, a une très belle phrase sur l'idée que notre seul destin est ici proposé sur la Terre. C'est le rien que la Terre de Paul Morand. Enfin, c'est pas tout à fait.
Vous aussi, vous dites ça, enfin... Cynthia Fleury. Profitez du réel, il est là à votre portée et il peut vous donner du merveilleux, pour reprendre un terme cher à Onodibio.
Je le dis un peu différemment parce que j'ai pas cette même facilité précisément. Et je souligne néanmoins, sans vouloir faire la fine, que Sylvain écrit. Et que donc son rapport au réel passe aussi par une verbalisation, une trace qui est celle de l'écriture.
Commence par vivre, observer. Exactement. Et relater.
Et la question, peut-être qu'un jour, il ne l'a pas toujours fait, mais peut-être qu'un jour, il ne se contentera que du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas,
sans l'écriture.
Sans écriture, je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas si simple.
C'est envisageable, Sylvain Tesson?
qu'un jour je me mette à réfléchir. Ça, non. Mais que j'arrête un jour de vivre non plus et d'écrire sûrement pas. J'aime bien le glissement de l'impression à la notation, de l'expérience à la formulation.
Cela dit, vous pourrez peut-être uniquement écrire dans vos carnets comme vous l'avez toujours fait depuis que vous parcourez le monde, mais ne pas publier ensuite.
C'est ça que
vous dites aussi, Cynthia Perry.
Oui, en tout cas, je dis, si vous voulez, que se contenter du monde n'est pas chose aisée, simple. C'est une action immense, que ça demande à la fois énormément d'humilité, énormément de tranquillité d'âme, et que je ne l'ai pas. Et que si sans doute j'écris, c'est aussi parce que je n'arrive pas précisément à me contenter de ce monde. Alors que je sais, bien évidemment, et le savoir est là, que précisément ce monde, et comme disait tout à l'heure Sylvain, ce monde est là, il est plus qu'immense et il est en plus totalement inconnu de la majorité d'entre nous.
Je vais poser cette question de l'écriture aussi à Christophe Onodibio. Vous pourriez, comme moi, vous contenter d'être journaliste. Or, vous avez écrit plusieurs romans, c'est-à-dire que vous avez besoin de quoi de plus?
Mais j'étais, en fait, le journalisme est venu avant, en fait. Moi, je voulais écrire et j'ai l'impression, mais c'est tout le sens de la conversation qu'on a. C'est-à-dire que dans cette... J'ai besoin de retrouver ma corde ou mon fil à plomb dans ce tumulte du monde, de l'actualité. Et je pense que si j'écrivais pas, si j'avais pas ces moments-là d'aube bénite, presque, enfin de... Non pas provoquer le moment, mais garder le moment, sauver le moment, sécuriser le moment.
Ça vous réconcilie avec vous-même? C'est un temps que vous prenez? On parlait de la nécessité de la lenteur quand on marche tout à l'heure.
Moi, j'ai besoin d'écrire... J'ai besoin de fixer des moments de vie, d'attention au monde que je ne peux pas avoir précisément quand on fait le métier qu'on fait de journaliste, où on est attentif évidemment à celui qu'on reçoit. Mais on est dans ce tumulte, dans ce chaos qui est nécessaire et qui est aussi stimulant, qui est aussi, on ne ferait pas ça sinon, qui stimule la curiosité, qui stimule l'appétit, qui nous permet de changer de rythme, de nous mettre à sprinter, quand le temps de l'écriture est plus un temps ou de l'apnée ou du marathon, c'est-à-dire quelque chose vraiment d'intérieur, où il faut unifier justement ce corps et l'esprit. Et il y a ces moments magnifiques de l'écriture où tout semble presque se dicter soi-même.
Le réel, le merveilleux, la nature, on continue d'en parler avec Sylvain Tesson et ses invités, Christophe Onodibio, Cynthia Fleury et Robert Bouvier. Dans un instant, on va écouter Georgia Smith, Where Did I Go?
Each time inside I
Sylvain Tesson, on a voulu vous faire plaisir, on espère vous faire plaisir et en savoir peut-être un petit peu plus sur vous en allant rencontrer quelqu'un qui voyage souvent avec vous. Ça n'est pas Cynthia Fleury, c'est un photographe grand reporter avec lequel vous avez publié 8 livres, dont En avant, calme et fou, une esthétique de la bécane. C'est Thomas Gouasque, un grand homme aux yeux d'un bleu très clair qui, malgré son âme de voyageur, est resté fidèle à sa terre d'origine puisqu'il habite aujourd'hui avec sa femme et ses 5 enfants dans une ferme dans un petit village près de Compiègne. C'est là qu'il cache amoureusement le sidecar qui vous a permis tous les deux de parcourir la Russie et le lac Baïkal.
Alors là, on est dans votre corps de ferme, c'est chez vous?
Oui, c'est une petite ferme dans un village à 15 km de Compiègne. Une ancienne ferme qui date de 1830.
Là, on est dans la cour intérieure, en fait.
Voilà, une cour intérieure dans laquelle il y avait autrefois des moutons. Mon bureau est installé dans une ancienne bergerie.
Alors, on va voir la bête.
Alors, je vous emmène voir la bête. Alors ici, dans un coin de la ferme, vous avez un ancien établi, en fait, de la ferme.
Et à l'intérieur
Dans laquelle on a rangé, avec Sylvain, soigneusement, le sidecar Oural que nous avons ramené de Russie lors de notre voyage sur les pas des grognards de la Grande Armée. Donc c'est une moto qui a fait Moscou-Paris en suivant pas à pas le trajet des grognards de la Grande Armée. Donc je mets le contact. Et on avait appris à dire en russe le mot tadbou, parce que les Russes prennent cette moto pour un tadbou, ils appellent ça la drondoulette.
Et vous, ça vous fait quoi alors d'entendre ce moteur vibrer?
Il y a vraiment une sorte de grande liberté, on redevient enfant en fait, au volant d'un truc comme ça.
Et ça se conduit facilement ça?
Comme dit Sylvain, on a l'impression de conduire un chalutier quand on a les fesses là-dessus, c'est-à-dire que ça part un peu sur le côté, il faut rattraper. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est extrêmement drôle à piloter.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de voyager?
L'émotion, c'est plus avec l'action humaine que je l'ai. C'est vraiment la rencontre des personnes, voir comment ils vivent et raconter leur mode de vie. Mais les paysages m'émeuvent moins que l'âme humaine, en fait. Je dois dire que j'ai vraiment du mal à faire des photographies s'il ne se passe rien. C'est-à-dire purement paysage ou purement attractif, j'ai vraiment du mal. Par contre, je vais être capable de faire 2000 photos de dockers qui déchargent un cargo sur un port à la couchée du soleil. C'est beaucoup plus ça qui va m'intéresser, le mouvement.
Comment est-ce que vous avez rencontré Sylvain Tesson?
C'était en 2003. Il a marché donc du cercle polaire arctique jusqu'en Inde pendant 9 mois. Il a fait 6000 km tout seul avec un sac de 5 kilos. Et le Figaro Magazine, qu'ils ont eu la bonne idée de me proposer de l'accompagner, en fait de le rejoindre à 4 étapes clés de son périple. Et j'ai marché 15 jours avec lui en Mongolie, 15 jours au Tibet, 15 jours en Inde et avant 15 jours en Sibérie. Et voilà, après quasiment 2 mois de marche ensemble sur la totalité de son périple, soit on se parle plus, soit on est amis.
Qu'est-ce qui vous marque chez lui?
C'est quelqu'un de très profond. Et c'est quelqu'un de très attentif aux autres. C'est vraiment une qualité qui m'a frappé dès le premier voyage, et notamment donc pendant cette marche des évadés du Goulag où j'avais un peu de mal à le suivre parce que lui, il avait déjà traversé les steppes et il avait pas mal d'entraînement et une belle forme physique. Et donc, il était très attentif à moi. Et ça m'a beaucoup touché. Et puis aussi, évidemment, Sylvain, c'est quelqu'un qui sait se mettre au niveau de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Mais c'est très touchant parce que à aucun moment, on a l'impression d'un décalage, alors que le décalage culturel, le background intellectuel existe bel et bien. Quand je pars mon reportage, j'ai un sac à dos rempli d'appareils photo. Lui, il a un sac à dos rempli de livres.
Quel est le lieu le plus somptueux que vous avez traversé avec lui?
Je dois dire quand même, pour y avoir été 5 fois avec lui, que le lac Baïkal reste sans doute un des plus beaux souvenirs qu'on ait ensemble. Nous étions sur un petit bateau sur le lac Baïkal l'été et le garde-chasse qui nous accompagnait nous a dit « Vous devriez revenir l'hiver parce qu'il y a 1 mètre de glace et on peut rouler sur le lac ». Et là, on s'est regardé avec Sylvain, comme on aime bien tous les deux la moto, et on s'est dit « On va venir faire ça en sidecar ». C'était en 2005. On a passé 1 mois sur le lac, la plus grande patinoire du monde, hein, 800 km, je crois, du nord au sud, une sorte de grande glissade comme ça d'un mois. Mais tous les jours, on a l'impression que c'était mieux qu'hier, tellement on en prenait plein les yeux. On a gardé sans doute l'un et l'autre de ce voyage des souvenirs très émus.
«
C'est une sorte de frère, Thomas Gouasque, Sylvain Tesson, ce photographe reporter qui vous a accompagné si souvent. Qu'est-ce qui marche bien entre vous ?
Oui, son côté mousquetaire, je pense qu'il serait le Porthos chez les mousquetaires. J'aime bien chez Gouasque sa capacité d'endurer le pire. C'est peut-être ce qui explique la longévité de notre amitié.
Qu'est-ce que vous avez vécu de pire, vous, par exemple ? Alors, certes, il y a l'accident de 2014, mais je parle de vos voyages, de vos escalades, de vos marches,
chevauchées. Les choses pas très agréables que j'ai pu vivre en voyageant, c'est les passages de frontières. Ça m'a jamais véritablement réussi. J'ai eu un vrai problème dans les années 97, en passant entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. La frontière était encore gardée par l'armée ex-soviétique. On a cru un peu naïvement qu'on pourrait passer à travers les mailles du filet, et puis on s'est fait arrêter. Ils ont été cordiaux, mais très fermes.
Si on profitait de notre comédien Robert Bouvier, qui est aussi directeur en Suisse, à Neuchâtel, de la Compagnie du Passage, si on profitait de vous pour entendre du Homère.
Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que la meilleure vie selon Homère ? Croyez-moi, en effet, il n'est pas de meilleure vie que lorsque la gaieté règne dans tout le peuple, que des convives dans la salle écoutent le chanteur assis en rang, les tables devant eux chargées de viandes et de pain, et les chansons dans le cratère puisant le vin et le versant dans chaque coupe. Voilà ce qui me semble être la chose la plus belle. Alors, on disait, ça ne nous suffit pas la vie, on a besoin de la création, on a besoin d'écrire, de jouer, de rêver, on a besoin de la fantaisie, on a besoin de la tendresse, c'est peut-être ça qui nous fait parler à un brin d'herbe ou à un oiseau. Et là, c'est beau de se dire que pour Homère, la belle vie, c'est quand même l'art. On fait partie, il y a quand même le besoin d'écouter la aide, le besoin d'écouter le chanteur. C'est...
Ça vous anime,
oui,
de lire Homère. Et mon regard se tourne vers Christophe Onodibio, parce que dans son livre « Croire au merveilleux » où un homme a perdu sa femme, c'est la suite d'une certaine manière de plonger votre précédent roman. Cet homme a envie de mourir, il a envie de se suicider. Et puis il y a un petit garçon dans l'histoire, et c'est pas rien ce petit garçon dans sa vie. D'abord parce qu'il ressemble à sa mère très fort, mais aussi parce qu'il va peut-être vous faire croire au merveilleux. Mmh. Et grâce à lui, vous allez pouvoir lui dire les Grecs, vous allez pouvoir lui dire Homère. La transmission est très importante dans ce livre.
Oui, j'aime bien l'idée qu'on soit sauvé par l'enfant qu'on était. J'aime bien l'idée qu'on puisse imaginer que, devenu adulte, on convoque l'enfant qu'on était. Et j'aime bien l'idée que cet enfant nous dise « tu n'as pas trahi l'enfant que j'étais, tu es resté finalement le même ». Vous l'avez dit, cet homme veut mourir tout simplement parce que le visage de cet enfant lui est insupportable, tant il ressemble à la disparue et il ne peut pas, d'ailleurs, même Orphée a raté, puisqu'il n'a pas pu ramener Eurydice, donc comment lui, un mortel, pourrait réussir à faire ça ? Et il a décidé de s'effacer, il refuse d'être ce père. Et tout l'enjeu était de sauver, d'être le romancier qui sauve ces personnages qui vont mal, pour les ramener du côté de la lumière. Et vous avez prononcé le mot qui est très important, c'est le mot de transmission. Mais c'est transmission de quoi ? C'est transmission de connaissances, certes, mais c'est avant tout transmission de récits. Et ce qui m'intéresse, et quand on parlait tout à l'heure avec Cynthia de cette notion de monde dans lequel tout le monde serait remplaçable, et d'émerveillement, tout à l'heure avec Sylvain, c'est pas juste de jouir de la beauté d'un paysage ou de la beauté d'une histoire, d'un récit, c'est d'être attentif aux signes aussi. Comme s'il y avait dans le monde qu'on peut contempler des failles, et par ces failles passait justement tout ce savoir ancien, toutes ces histoires anciennes. Et croire au merveilleux, c'est ça, cet enfant qui au départ a l'air de protéger son père, alors que dans l'ordre des choses, c'est plutôt les pères qui protègent leurs enfants. Comment cet enfant va réveiller chez son père l'enfant qu'il était, et l'enfant qu'il était a eu la chance de s'initier à ces histoires anciennes. Et j'aime bien l'idée, et je terminerai là-dessus, que quand on a veillé sur une sorte de trésor d'histoire, comme un feu sacré, j'aime bien l'idée que des années après, au fond, on soit récompensé par ça, comme si on avait... Gardez un peu le trésor, et le trésor finalement vous récompense. Mais ça passe par du récit, par des fictions qui contiennent tous les enseignements du monde et qui nous aident à nous émerveiller.
Cynthia Fleury, vous opinez du chef, si je puis dire, quand vous entendez parler de transmission par rapport à ce roman, Croire au merveilleux. Et c'est vrai que le petit garçon dit au père, tu es un individu qui a le droit d'exister.
Oui, j'opinais effectivement, mais aussi avec cette question qui est derrière celle de la transmission, qui est celle du temps. En fait. Et c'est vrai que moi, ce qui, je pense, est déterminant dans la littérature et dans ce type d'ouvrage-là, l'Iliade et l'Odyssée, ou que vous trouvez dans l'Énéide de Virgile, ou vous trouvez dans, chez Ovide avec les Métamorphoses, d'une autre manière chez Dante avec la Comédie, etc., divine, c'est un enseignement du temps, du cycle. On parlait de l'immensité horizontale de l'espace, mais il y a une autre immensité qui est celle du temps. Et c'est vrai que celle-ci, elle est extraordinairement compliquée parce que naviguer dans le temps, c'est une chose parfois douloureuse, c'est une chose parfois verrouillée. Et là aussi, Dieu sait que la question de l'inconscient et de la conscience, l'inconscient est un voyageur du temps. Et c'est ça sa force. Et justement, on voit la difficulté aujourd'hui que nous avons aussi de voyager dans le temps. Et nous oublions notre histoire, nous n'avons pas de capacité de construire notre avenir autrement souvent que par le sentiment d'une menace ou du pire, alors que nous sommes précisément les enfants du cycle vital. Et même, ça, c'est...
Sylvain Tesson.
À propos de la transmission dont Cynthia fait presque profession puisqu'elle enseigne, et dont Onodibio lui-même, à laquelle il n'est pas étranger puisqu'il a des enfants, je voudrais citer une de ses phrases de croire au merveilleux. Il dit que très tôt, enfin tout petit déjà, longtemps, il ne s'est pas couché de bonheur, mais il a lu les récits antiques. C'est quand même une sacrée école de la chair et de la liberté. J'avais 13 ans, ça m'a formé, ça m'a ouvert un monde. C'est tout à fait beau parce que il faudrait que les ministres de l'instruction publique ne méprisent pas trop la capacité des mômes à s'émerveiller de ces histoires. Ils sont tout à fait capables de recevoir tout cela. En outre, j'aime énormément l'idée que l'émerveillement ne doit pas simplement être une position de spectateur devant un spectacle. Nous ne sommes pas le public d'une scénette qui s'appellerait Le Monde, mais nous devons y voir des signes, disait Christophe Onodibio. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que merveilleux, c'est finalement une tentative de lire le monde à travers une grille de lecture qui nous envoie ces symboles. Le monde est comme un blason et nous tâchons d'en trouver les éclats. Et permettez-moi simplement de vous dire que il y a dans le François d'Assise de Delteil une tentative d'aller puiser dans tout l'émerveillement de la création de François. Il appelle ça la création, il n'appelle pas ça le monde, il appelle ça la création, puisqu'il est chrétien. Il est comme Delteil, il est chrétien, mais il est aussi païen. Souvenez-vous que Delteil disait « Je suis chrétien, voyez mes ailes, je suis païen, voyez mon cul ». Il y a les deux dimensions chez Delteil et chez François. François est le plus païen des saints chrétiens et le plus chrétien des dionysiaques. Et tout à coup, voilà qu'il voit des fourmis et il dit « Mes sœurs les fourmis, rendez grâce à Dieu qui vous fit menu, afin que votre mort fût un exemple d'acceptation et de modestie. Votre anéantissement muet éveille dans le cœur des hommes d'étranges résonances mystiques. » Les voilà les étranges résonances du merveilleux. La voilà l'extraordinaire cadeau que nous fait le monde d'aller chercher des résonances étranges. Et je dis pas ça parce qu'il est à côté de nous.
Robert Bouvier, le comédien.
Je dis pas ça non plus parce qu'il est suisse et que les Suisses auraient besoin d'un peu de tendresse. Mais je dis ça parce que ce spectacle, quand on le voit dire le texte de Delteil dans la nudité, dans l'averse de lumière verticale, rendre grâce à ces bêtes, à ces fleurs, à la création, à la glaise et au cosmos, on a véritablement, positivement, l'impression d'être dans Homère. Et on a l'impression que finalement, toute l'histoire chrétienne n'est qu'une recomposition de ce qui avait déjà été écrit par les
antiques. Ça se passe au Théâtre de Poche à Paris, spectacle repris, créé en 1994 avec Adèle Hakim à la mise en scène. Christophe Onodibio, Cynthia Fleury, je voudrais que vous nous parliez de l'écrivain Sylvain Tesson. Vous disiez, Cynthia Fleury, que c'était important pour vous de lire sa vision du monde et sa restitution de cette vision du monde. Il se méfie toujours un peu de l'écrivain qu'il est.
Je crois que c'est très difficile de toute façon pour tout écrivain de se percevoir comme il est, et c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose. Ce qui est certain, c'est que les livres de Tesson existent indépendamment de lui, et c'est vrai que c'est immédiatement un monde, c'est ciselé. Donc moi, je trouve pas du tout ça sec. Je pense qu'il y a un vrai lyrisme d'une certaine manière, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du ressenti humble, précis. C'est quelqu'un d'absolument honnête aussi. Et puis, alors indépendamment, il reste quand même un voyageur, donc il est un herméneute, c'est-à-dire que tout de même, il perçoit, il interprète des signes de ce monde que lui seul connaît. C'est aussi un guide, par son écriture, d'un monde qui, pour ma part, me restera à jamais étranger.
Et donc, on a bien compris. Voilà. Christophe Onodibio, votre regard sur l'écrivain.
Oui. Moi, je suis content que vous parliez d'écrivain, parce que c'est évidemment un écrivain. Et quand on dit écrivain voyageur... J'aime pas du tout, en fait.
Il aime pas ça non plus.
Ah ben voilà. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est les voyages intérieurs. C'est-à-dire, c'est le voyage d'après. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire, la transmutation de l'expérience vécue, physique, risquée parfois, et parfois non. Quand tu es dans une forêt, dans un sous-bois, à écouter finalement le murmure d'un ruisseau, le bruit que font les herbes sous la brise, ça vaut, les passages de frontières afghano-turkmènes. C'était bien ça?
Oui, peut-être, voilà. Mais c'est bien ça.
Et donc, moi, c'est le voyage intérieur de Tesson qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment, au milieu d'une nature compliquée, d'un contexte géopolitique compliqué, comment, sur une glace, à bord de son sidecar, comment il va transmettre à son lecteur, donc par des mots. Il se trouve qu'il a vécu ça. Mais tu pourrais ne pas l'avoir vécu. Mais le fait de l'avoir vécu te donne exactement la température. Et tu transmets cette température, tu transmets cette tactilité, ce sens du toucher, ce sens des étoffes. Et je me souviens d'un passage de ton livre sur les sentiers noirs.
Dans
les chemins noirs. Tu es une sorte de scorpion dont tu décrivais la carapace noire. Et en fait, en décrivant cette carapace noire des scorpions, on était presque dans la mythologie déjà, dans une sorte de petit monstre qui sortait comme ça des âges très anciens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on dit écrivain voyageur, honnêtement, qu'il aille faire des montagnes, etc., c'est pas ça qui m'intéresse. Je trouve ça bien, c'est plein d'anecdotes, mais c'est pas ça qui fait son importance.
Je me sens traversé de beaucoup d'émotions, et puis ça me donne du courage, ça me donne de l'audace. On se rêve héros en le lisant.
Sylvain Tesson, vous avez bien fait de venir.
Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Je sens que ça vous renarcissise.
Non, pas tellement, mais j'ai connu déjà des gens plus difficiles et plus exigeants et plus acerbes. Alors,
dès qu'on dit du bien de vous, c'était le cas de Thomas Guasque tout à l'heure, vous dites, mais il n'est pas difficile. Pourquoi vous êtes exigeant comme ça avec vous?
Bon, parce que ça s'appelle la lucidité. Si jamais je dois dire que j'ai une qualité, c'est celle-là. C'est la lucidité sur le monde et donc sur moi-même. C'est pas aux invités de votre table que je vais dire ça, mais le fait de lire beaucoup et compulsivement vous ramène tout de même à votre propre production. Et à chaque fois que vous ouvrez les livres des autres, c'est tout de même un grand exercice d'anéantissement.
Ça vous empêche
de la
pas
petite
d'écrire.
Importance que vous vous donniez.
Ça vous empêche pas de produire et d'écrire.
Oui, bah bien sûr que ça n'empêche pas, mais sans aucune considération pour la trace que je pourrais laisser. Moi, je ne laisse comme trace que celle des alpinistes, c'est-à-dire la ligne de ski la plus esthétique possible.
Merci d'avoir été l'invité du grand atelier, Sylvain Tesson. Je vais rappeler que vous avez publié Un été avec Homer, après votre émission de l'été dernier sur France Inter. Et puis je peux aussi signaler aux Équateurs, si vous le permettez, Une très légère oscillation. Ah ben ça, c'est un journal, ça y est, enfin vous publiez un journal en soi.
Oui, c'est un recueil de bloc-notes que je publiais d'ailleurs dans un journal que Christophe Onodibio connaît peut-être, qui s'appelle Le Point, et qui me permettait d'offrir une réaction légèrement épidermique à ce qui se passait autour de moi. En tout cas, je tentais de prêter attention.
Je cite quelques lignes en lisant moins bien que Robert Bouvier. Se méfier des gens qui vous invitent à une conférence sur le non-agir ou qui vous passent avec des airs satisfaits leurs travaux sur la critique de l'individualisme. Le même genre a milité pour aider les migrants avant d'enjamber le clochard qui dort en bas de chez eux. À bientôt, Sylvain Tesson. Faites attention à vous.
Merci.